Bonjour, chers frères et sœurs. Il est agréable de voir un peu de soleil à l'extérieur. Ici, au siège, le temps peut être maussade pendant l'hiver, avec beaucoup de nuages. C'est l'une des choses que j'ai remarquées, le climat n'est pas très différent entre l'Iowa, d'où je viens, et l'Ohio, mais tous deux sont froids et peuvent être enneigés. Il y a peut-être un peu plus de neige dans l'Iowa, mais si vous allez juste un peu plus au nord, il peut y avoir beaucoup plus de neige qu'ici. L'une des principales choses que j'ai remarquées, c'est que le ciel est très nuageux tout au long de l'hiver. En ce sens, il fait peut-être un peu plus froid dans l'Iowa, mais les nuages ont un effet, je ne sais pas, sur la morosité, mais c'est agréable de voir le soleil à l'extérieur. Passons tout de suite au message. Je voudrais vous poser une question. Si je vous disais qu'il y a une phrase citée 42 fois exactement dans la Bible, de quelle phrase penseriez-vous qu'il s'agit? Avez-vous réfléchi au fait qu'il y a beaucoup de répétitions dans la Bible? Les choses sont dites plusieurs fois pour mettre l'accent, et vous pouvez peut-être penser à des phrases que vous avez vues à plusieurs reprises dans la Bible. Mais il y en a une qui est répétée 42 fois, ces cinq mots. Il y a l'expression ne craignez pas, qui est de deux mots, et que l'on retrouve plus souvent que cela. Je ne sais pas si je l'appellerais une phrase, c'est une sorte de phrase, mais ce n'est que deux mots, 62 fois qu'on la trouve, mais 42 fois que cette phrase de cinq mots se trouve dans la Bible. Pouvez-vous penser à ce que c'est? Peut-être l'avez-vous, peut-être y avez-vous déjà pensé, mais vous en avez certainement entendu parler. Il s'agit de la phrase car sa miséricorde dure à jamais. Combien de personnes ont entendu parler de cette phrase? Oh, bien sûr. Bien sûr. Sa miséricorde dure toujours. Dieu est un être infiniment miséricordieux. C'est le Dieu que nous servons. Un Dieu dont la miséricorde est toujours prête à nous être accordée. Il nous rassure à ce sujet 42 fois. Pourquoi voudrait-il nous dire quelque chose 42 fois dans la Bible, à moins qu'il ne veuille vraiment que nous y croyions? Peut-être parce qu'en tant qu'êtres humains défectueux, nous péchons, et quand nous péchons, nous pouvons commettre le même péché. Et ensuite nous pouvons commettre le même péché encore et encore et encore, mais Dieu sait qu'il a créé des êtres humains avec des défauts. Il peut aussi comprendre que nous puissions regarder Dieu et lui dire, comment peux-tu, après avoir encore une fois commis le même péché, comment peux-tu me pardonner? Humainement, nous conclurions qu'il n'y a pas moyen. Il est impossible que Dieu ait autant de pitié pour nous. Je l'ai vu tant de fois, encore et encore, et pourtant Dieu dit que sa miséricorde dure à jamais. Il veut que cette phrase soit ancrée dans notre esprit afin que nous ne perdions jamais espoir en sa capacité à être miséricordieux envers nous. C'est un Dieu étonnant que nous servons. Il le dit 42 fois, car sa miséricorde dure à toujours. La miséricorde de Dieu peut prendre différentes formes. Je viens d'en mentionner une. D'une certaine manière, la miséricorde de Dieu prend la forme du pardon, où il pardonne nos péchés. Il voit que nous péchons, et nos péchés peuvent être pardonnés et pardonnés, effacés. Nous le voyons à la Pâque. Nous approchons de la Pâque, mais il peut aussi faire preuve de miséricorde de différentes manières. La miséricorde prend la forme de la compassion ou de la pitié. Dieu a pitié de nous. Compassion. Il nous montre peut-être sa compassion en nous délivrant, en mettant fin aux épreuves auxquelles nous sommes confrontés. Vous avez assez souffert. Je vais mettre fin à cette épreuve maintenant. Ou peut-être qu'il nous protège. Il fait preuve de compassion en nous protégeant de quelque chose qui aurait pu être potentiellement dangereux pour nous, physiquement ou spirituellement. Il est de la compassion. C'est une autre forme de miséricorde. Une autre forme de miséricorde est la bonté. Cela signifie que Dieu peut nous bénir. Il peut nous accorder sa faveur. Il peut faire preuve de miséricorde en nous bénissant. La miséricorde de Dieu, c'est aussi intéressant. Un dernier point ici, c'est que la miséricorde de Dieu vient aussi quand les gens font des choses par ignorance. Vous pouvez vous reporter au premier chapitre de Timothée. Lorsque nous faisons des choses, en particulier en tant que nouveaux chrétiens, lorsque nous faisons des choses par ignorance, Dieu fait preuve de miséricorde à notre égard dans la mesure où il ne nous en tient pas rigueur jusqu'à ce que nous sachions que nous faisons mal. Une fois que nous savons que nous faisons le mal, il peut commencer à ne pas faire preuve de miséricorde si nous ne faisons pas attention. Dans le premier chapitre de Timothée, au verset 12, Paul dit à Timothée, « Je rends grâce à Jésus-Christ, notre Seigneur, qui m'a rendu capable, parce qu'il m'a compté comme fidèle, en me confiant le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur. » Paul était un blasphémateur, un persécuteur et un injurieux, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'ai agi par ignorance, dans l'incrédulité. En particulier, les choses que nous avons faites avant d'entrer dans la vérité de Dieu et dans sa voie, nous les avons faites dans l'ignorance. Nous les avons faites avant d'être appelés, avant de connaître la vérité. Nous aurions pu humainement savoir ce qui est bien et ce qui est mal, mais Dieu dit qu'il ne nous en a pas tenu rigueur. De même, dans le chapitre 11 de l'Épître aux Romains, vous pourriez peut-être revenir en arrière si vous le souhaitez, mais je vais simplement vous le lire. Romains, chapitre 11, verset 26. Romains 11, 26 dit ceci, « Ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit que de Sion sortira le libérateur, et qu'il détournera de Jacob les impiétés. Car c'est là mon alliance avec eux, quand j'ôterai leurs péchés. » Il parle de tout Israël. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont bien-aimés à cause du Père, car les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. En effet, si vous n'avez pas cru autrefois à Dieu, vous avez maintenant obtenu miséricorde par leur incrédulité. De même, ceux-là aussi n'ont pas cru, Israël ne croit pas en ce moment, afin que, par ta miséricorde, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu les a tous conclus dans l'incrédulité, afin d'avoir pitié de tous. En ce moment, le monde a ce que nous appelons le voile. Le voile les couvre. Le voile est sur leurs yeux. Ils ne peuvent pas voir et comprendre la vérité. Le voile a été levé pour nous parce que Dieu nous a appelés. Nous pouvons voir la vérité. Nous pouvons voir des versets clairs dans la Bible, les comprendre et dire, c'est évident. Aucun homme n'est monté au ciel. Il est clair que nous n'allons pas au ciel quand nous mourrons. Nous croyons ce qu'il dit, non pas à cause de ce que nous avons fait, mais parce que Dieu a levé le voile sur nous. Il nous a ouvert les yeux sur la vérité. Si vous montrez à quelqu'un qui n'est pas membre de l'Église le verset qui dit qu'aucun homme n'est monté au ciel, il vous dira, « Je ne suis pas d'accord ». Il peut lire littéralement ce verset et en conclure qu'il est au ciel, que les gens vont au ciel quand ils meurent. C'est une chose étonnante, mais ce n'est que le voile. C'est tout ce que c'est parce que Dieu veut qu'il soit dans cette incrédulité afin qu'il ne soit pas tenu pour responsable maintenant. Il veut pouvoir faire preuve de miséricorde plus tard. Nous servons un Dieu incroyablement génial qui a mis en place ce plan pour toute l'humanité. Il ne s'agit pas simplement d'être catholique et d'être le seul à recevoir la vie éternelle, ou d'être baptiste et d'être dans la bonne église et personne d'autre. Tous les autres iront en enfer. Ce n'est pas comme cela que cela marche. Ce n'est pas le Dieu que nous servons. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible a un plan pour toute l'humanité, et pour l'instant, ils n'ont que le voile. La miséricorde de Dieu se manifeste de différentes manières. Le pardon des péchés, la compassion ou la pitié, la bonté. Il regarde aussi au-delà de notre ignorance parce que nous, même dans l'Église après avoir été appelés, nous pouvons toujours faire quelque chose par ignorance. Disons que nous apprenons certaines vérités et que nous commençons à observer certaines vérités, mais que nous ne savons pas encore comment observer le sabbat correctement. Dieu ne va pas, simplement parce qu'il a commencé à vous appeler, vous tenir pour responsable de ne pas savoir comment observer le sabbat correctement. Non, c'est un processus de croissance et d'apprentissage. Plus nous en savons, plus nous sommes tenus pour responsables. Vous êtes-vous déjà demandé si la miséricorde infinie de Dieu signifie que nous la recevons automatiquement? S'il dit 42 fois dans la Bible que sa miséricorde dure à jamais, c'est vrai, mais cela signifie-t-il automatiquement qu'il est miséricordieux envers nous à tout moment? Il sera toujours miséricordieux envers nous, quoi que nous fassions, quelles que soient nos actions. Passez au chapitre 62 du psaume. Psaume 62. Psaume 62 et nous lirons le verset 11. Ce n'est pas parce que Dieu dit qu'il a une réserve inépuisable de miséricorde que nous en sommes toujours les bénéficiaires. Psaume 62 et verset 11. Dieu a parlé une fois, deux fois j'ai entendu dire que la puissance appartient à Dieu. De même, à toi, Seigneur, appartient la miséricorde. Il est le détenteur de toute la miséricorde. C'est lui qui la tient comme on tiendrait une mallette. Il a la miséricorde avec lui à tout moment. Car vous rendez à chacun. Vous pourriez ajouter le mot miséricorde ici, vous rendez à chacun selon son travail. Cela signifie que Dieu dispose d'une réserve inépuisable de miséricorde, mais qu'il accorde sa miséricorde aux gens en fonction de leur travail, des choses qu'ils font dans leur vie. Du point de vue de Dieu, nous ne sommes pas automatiquement des bénéficiaires infinis de la miséricorde. Non, non, non. Il regarde vers le bas et dit, « J'ai de la miséricorde et je serai toujours miséricordieux, mais je vais vous la donner sous certaines conditions. » Quelles sont ces conditions? Les églises du monde voient les 42 versets que nous venons de décrire, que la miséricorde de Dieu dure toujours, et elles s'en servent comme d'une excuse pour ne pas changer. Ils disent, parce que la miséricorde de Dieu dure à jamais et qu'il le dit 42 fois, ne le savez-vous pas? Par conséquent, je n'ai rien à faire. Je ne dois pas changer. Je n'ai pas à m'améliorer de quelque manière que ce soit. Je peux continuer à pécher et Dieu sera toujours miséricordieux. C'est merveilleux. Mais comment concilier cela avec ce que nous venons de lire dans le psaume 62? Que Dieu dispense sa miséricorde en fonction des œuvres des gens. Le monde pense que la miséricorde de Dieu est infinie et que, quoi qu'il fasse ou agisse, sa miséricorde les couvrira. Ils vivent l'accomplissement de ce que nous voyons dans le chapitre 4 de Jude. Il y a un changement de cap. Jude verset 4, excusez-moi. Il n'y a qu'un seul chapitre dans Jude. Jude est le verset 4. C'est littéralement la définition de ce que les gens font dans le monde. Lorsqu'ils voient des versets, ces 42 versets sur la miséricorde de Dieu, c'est ce qu'ils font. Nous allons nous concentrer sur la seconde moitié du verset. Car certains hommes se sont glissés à l'insu de ceux qui, dès longtemps, étaient destinés à cette condamnation, transformant des hommes impies, transformant la grâce ou la miséricorde de Dieu en lascivité. Lascivité signifie licence. Ils voient la miséricorde de Dieu, mais ils la transforment en licence pour aller pécher parce que sa miséricorde dure toujours. Donc, peu importe combien je pêche, peu importe ce que je fais, La miséricorde de Dieu me couvrira. Ils sont déterminants, ils sont l'accomplissement de ce verset d'une certaine manière. C'est ce que le monde pense, mais malgré ce que le monde croit à propos de la miséricorde de Dieu, nos actions ont de l'importance. Elles ont de l'importance. Encore une fois, le psaume 62 le prouve à lui seul. Il suffit de le lire. En d'autres termes, même si Dieu a une réserve inépuisable de miséricorde, cela ne signifie pas automatiquement que nous la recevrons. Alors comment pouvons-nous aujourd'hui, frères, être certains que nous recevrons la miséricorde de Dieu? Il y a deux conditions majeures pour l'équilibre du message. Nous allons examiner deux moyens très clairs et très simples de recevoir la miséricorde de Dieu. Mais il y a deux conditions majeures. C'est tout ce sur quoi nous allons nous concentrer. Il y a de petites choses accessoires. Par exemple, la Bible dit une ou deux fois que celui qui espère en la miséricorde de Dieu recevra la miséricorde. D'accord, c'est très bien. Celui qui a la crainte de Dieu recevra la miséricorde de Dieu. C'est très bien. Il y a beaucoup de petits points divers, mais nous n'allons pas nous y attarder. Nous allons nous concentrer sur les deux grands points, les deux plus grands points. Si vous faites ces deux choses, toutes les autres petites choses concernant la façon de recevoir la miséricorde de Dieu se mettront en place. Souvenez-vous simplement de ces deux choses. Entrons donc dans le premier point. La première condition est que si nous voulons recevoir la miséricorde de Dieu, nous devons reconnaître nos fautes. Nous devons reconnaître nos fautes. Passez au psaume 86. Psaume 86. Commençons par le premier verset. Psaume 86, verset 1. Baisse l'oreille, Seigneur, écoute-moi, car je suis pauvre et dans le besoin. C'est une prière de David. Préserve mon âme, car je suis saint. Toi, mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Sois miséricordieux envers moi, Seigneur, car je crie vers toi chaque jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, car c'est vers toi, Seigneur, que j'élève mon âme, car tu es bon, Seigneur, et prêt à pardonner. Tu es bon et prêt à pardonner, tu es plein de miséricorde pour ceux qui t'invoquent. Encore une fois, le premier point est de reconnaître nos fautes. Pour reconnaître nos fautes, il faut d'abord comprendre que nous avons une faute. Nous devons nous regarder en face. Nous devons voir que nous ne sommes pas en accord avec la manière dont Dieu nous a dit que nous devrions nous comporter ou vivre notre vie dans la Bible, qu'il s'agisse de nos pensées ou de nos actions. Frères et sœurs, l'une des choses les plus difficiles que nous puissions faire est de reconnaître que nous avons parfois tort. Curieusement, pour le Dieu de l'univers qui nous voit, il est plus facile de reconnaître nos fautes, mais il n'est pas aussi facile de reconnaître nos fautes pour d'autres personnes. Nous y reviendrons un peu plus tard, mais il est important que nous reconnaissions nos erreurs devant Dieu. Dieu a besoin de voir que nous voyons où nous nous trompons. Si nous ne nous adressons pas à lui dans la prière, si nous ne lui demandons pas pardon, comment peut-il savoir que nous voulons sa miséricorde? Comment pourrions-nous le savoir? Comment pourrait-il savoir que nous voulons être les bénéficiaires de la miséricorde qu'il va si volontiers nous dispenser? Rappelez-vous le verset 5, car il est prêt à pardonner. Il a la miséricorde dans sa main, prêt à nous la donner, mais il faut que nous fassions un certain geste et que nous nous abaissions d'abord. Regardez comment commence ce psaume, « Baisse l'oreille, Seigneur, écoute-moi, car je suis pauvre et indigent. » David ne s'adressait pas à Dieu dans la prière en pensant qu'il avait tout prévu. « Oui, Père, j'ai encore fait une erreur. J'en suis désolé. Je vais continuer à vivre ma vie. » Non, il s'était baissé. Il s'est rendu compte de la gravité de ce qu'il faisait. En reconnaissant cette gravité, il s'est adressé sincèrement à Dieu dans la prière. Il a sincèrement demandé à Dieu de lui pardonner et de lui faire miséricorde. Hébreux, chapitre 4. Hébreux, chapitre 4. Nous commencerons la lecture au verset 12. Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est rapide et puissante, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Arrêtez-vous une seconde et réfléchissez à cela. Nous parlons de la parole de Dieu. Les mots que nous lisons aujourd'hui font exactement la même chose. Ils sont rapides, ils sont vivants. Ce n'est pas un livre mort. C'est un livre qui contient des mots qui ont la vie en eux et qui est puissant et plus tranchant qu'une épée à deux tranchants, à tel point que les mots que nous lisons dans la Bible peuvent diviser l'âme et l'esprit, la vie et l'esprit. Pouvez-vous seulement comprendre ce que cela signifie? C'est dire la puissance de la parole de Dieu. Elle peut faire des choses qu'aucun autre livre sur terre ne peut faire. C'est sur ce livre que nous nous mesurons, sur nos actions. Nous devons utiliser la parole de Dieu qui est rapide et vivante. Alors que nous approchons de la Pâque, c'est le moment idéal pour y réfléchir, pour déterminer les aspects de notre vie qui ne sont pas à la hauteur. Nous nous mesurons et nous comparons nos actions à ce que la Bible dit que nous devrions faire, et si nous voyons que nous sommes fautifs, frères, d'accord, devinez quoi? Vous êtes un être humain. Bienvenue dans la race humaine. Ne vous inquiétez pas pour cela, mais ce que nous devons faire alors, c'est continuer à suivre ce qui est dit ici dans l'Épître aux Hébreux. Si nous voulons obtenir la miséricorde pour ces domaines de notre vie où nous échouons, où nous voyons que la parole de Dieu nous coupe en deux, nous montrant nos fautes, continuons à lire le verset suivant. Terminons le verset 12. Elle perce jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, jusqu'aux jointures de la moelle, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. La parole de Dieu et l'Esprit de Dieu en nous peuvent nous aider à discerner nos propres pensées, nos propres intentions, là où nous avons raison, là où nous avons tort. Il n'y a pas non plus de créature qui ne se manifeste pas à ses yeux. Quoi que nous fassions, c'est exposé, c'est ouvert à Dieu. Il voit tout ce que nous faisons. Nous ne pouvons rien lui cacher. Mais tout est nu et ouvert aux yeux de celui à qui nous avons affaire. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui est monté aux cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons ferme notre profession, car nous n'avons pas de souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, mais qui ait été tenté en tout point comme nous. C'est à ce Dieu que nous allons, Dieu et Jésus-Christ, mais sans péché. Voici ce qu'il faut faire. Approchons-nous donc hardiment du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver la grâce, la miséricorde pour nous aider dans le besoin. Nous devons nous présenter hardiment devant le trône de Dieu. Reconnaître hardiment, Père, que j'ai eu tort. Admettre nos fautes. Si nous voulons obtenir la miséricorde que Dieu est si volontiers prêt à nous dispenser, c'est le chemin. C'est le premier des deux points. Nous devons aller hardiment devant Dieu et admettre nos fautes, mais cela exige que nous passions par là et que nous voyions où nous faisons des fautes. Nous devons utiliser cette parole de Dieu qui est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Nous devons la regarder et nous examiner. Admettre que nous avons tort n'est pas facile et admettre que nous avons besoin d'aide n'est pas facile non plus. En tant qu'êtres humains, nous considérons que c'est une sorte de faiblesse, si vous voulez, de dire « j'ai besoin d'aide ». J'ai besoin d'aide pour quelque chose. En réalité, c'est une personne plus fière qui dit « non, 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 je n'ai pas besoin d'aide. J'ai tout ce qu'il faut. Ne vous inquiétez pas. Cela pourrait être le cas pour n'importe quoi dans la vie. Si vous cédez et dites, oui, vous savez quoi? Ce serait bien si j'avais un peu d'aide dans ce domaine. Il faut plus d'humilité pour dire cela, même s'il s'agit d'une petite chose, comme porter quelque chose à la voiture pour quelqu'un ou tenir la porte ou faire quelque chose de petit. Bien sûr, nous savons que nous pouvons tous faire ces choses nous-mêmes, mais il faut une certaine humilité pour laisser les autres le faire à notre place. D'une certaine manière, curieusement, nous voyons humainement le fait de permettre à d'autres personnes de... Peu importe, mais en tant qu'êtres humains, nous considérons cela comme une faiblesse. Nous considérons que c'est une faiblesse d'admettre nos fautes alors qu'en réalité, les personnes les plus fortes sont celles qui admettent leurs fautes. Les personnes les plus fortes savent dire « j'ai eu tort » et l'admettre. Pas seulement le savoir dans sa tête, mais l'admettre devant Dieu ou devant d'autres personnes. C'est ce qui est difficile. Vous pouvez savoir que vous avez eu tort, mais l'admettre est une chose tout à fait différente. Je peux savoir que j'ai eu tort de faire quelque chose à quelqu'un, mais si je n'y vais pas et que je dis, vous savez quoi? Je m'excuse. J'ai eu tort pour ce que je t'ai fait. Cela demande de l'humilité. Il faut s'abaisser, et c'est là l'essentiel. Il ne s'agit pas seulement de savoir que l'on a commis une faute, mais de l'admettre. Admettre et reconnaître ses fautes. C'est ce que dit le chapitre 11 et 32 de l'Épître aux Hébreux, au verset 32. Dites-moi si ces hommes étaient faibles. Lisons le verset 32. Hébreux 11, 32, que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour vous parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephté, de David, de Samuel et des prophètes, qui, par la foi, ont soumis des royaumes, exercé la justice, obtenu des promesses, fermé la gueule des lions. Ils ont accompli toutes ces choses puissantes. Ils ont éteint la violence du feu, échappé aux tranchants de l'épée, et, de leur faiblesse, ils se sont fortifiés, se sont épanouis, se sont rendus vaillants, et ont mis en fuite les armées des étrangers. Dans la faiblesse, nous sommes rendus forts, mes frères. Cela ne vaut pas seulement pour les anciens grands de la Bible, cela vaut aussi pour nous. Si nous admettons nos fautes et nos faiblesses, nous devenons forts parce que la miséricorde de Dieu est alors répandue sur nous. C'est ce qui est si étonnant. Malheureusement, si les gens quittent l'Église, c'est en grande partie parce qu'ils ont des problèmes qu'ils ne veulent pas admettre ou, au sujet desquels ils ne veulent pas être conseillés. Même en admettant, bien sûr, que vous avez besoin de conseils à propos de quelque chose, j'espère que vous comprenez tous, mes frères, que c'est confidentiel. Tout ce que vous dites au ministre est confidentiel. C'est entre vous deux. C'est entre vous et le ministre. Bien sûr, si le ministre a besoin de conseils supplémentaires, il ira parler à d'autres ministres pour savoir comment vous aider au mieux, mais comprenez bien que ce qui est dit est confidentiel. Ne pensez pas que si vous allez voir le pasteur, cette chose que j'ai faite de travers va peut-être éclater dans la congrégation et que tout le monde va le savoir. Non, ce n'est pas le cas. Nous ne devons pas laisser notre orgueil, si vous voulez, nous empêcher de conseiller. Si nous avons besoin d'aide, mes frères, allons voir les ministres de Dieu. Ils sont là pour cela. C'est pour cela qu'ils sont là. Cherchez de l'aide. Ce sera difficile parce que cela vous amènera à dire « j'ai eu tort » et pas seulement dans votre propre esprit, cela vous amènera à dire « j'ai eu tort envers quelqu'un d'autre ». Vous savez quoi? Une fois que vous avez dit cela, le pasteur ne se contente pas de dire « qu'avez-vous fait ?» Non. Le ministre dira « d'accord, essayons d'y voir clair ». Essayons de trouver un moyen de surmonter cette situation. Il est clair que vous venez me voir en toute humilité pour surmonter ce problème, et je suis là pour vous aider. Je ne suis pas là pour vous rabaisser. Je ne suis pas là pour vous démolir ou vous diminuer pour les choses avec lesquelles vous luttez parce que, écoutez, je suis un ministre et j'ai eu des problèmes moi-même. C'est le cas de tout le monde. N'hésitez pas à vous adresser au ministère de Dieu. Encore une fois, l'une des grandes raisons pour lesquelles les gens quittent probablement l'Église, c'est qu'ils ont ces choses dans la tête. Qui sait ce qu'ils pensent? Ils ne veulent pas en parler, alors ils s'en vont. Pourquoi? Parlez-en. Admettez que vous luttez peut-être contre quelque chose, et nous y travaillerons. C'est aussi simple que cela, mais cela demande de l'humilité. Ce n'est pas facile. 1er Roi, chapitre 8. 1er Roi, chapitre 8 et verset 22. 1er Roi, chapitre 8 et verset 22. Salomon se tint devant l'autel du Seigneur, en présence de toute l'assemblée d'Israël, et il étendit les mains vers le ciel. Il fit cela devant l'assemblée et dit, « Seigneur Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu comme toi dans les cieux en haut et sur la terre en bas, qui garde l'alliance et la miséricorde avec tes serviteurs qui marchent devant toi de tout leur cœur. » Il s'agit là d'un élément supplémentaire. Lorsque nous nous présentons hardiment devant le trône de Dieu pour demander miséricorde, nous devons venir de tout notre cœur pour le chercher, pour chercher à changer. Il ne s'agit pas simplement de dire « Père, j'ai commis une erreur » et de chercher à changer sans enthousiasme, littéralement sans enthousiasme. Non, il est dit que nous devons, de tout notre cœur, chercher à changer et à nous présenter devant Dieu. Si nous ne le faisons pas vraiment, si nous ne nous présentons pas devant Dieu avec tout notre cœur et tout notre désir de changer, ce ne sera qu'une demi-mesure, littéralement. Ce sera sans enthousiasme. Nous dirons, « Père, je veux changer, mais je ne suis pas encore prêt, alors je vais continuer à faire ce que je fais. Je suis ici devant toi en prière et je veux ton pardon, mais je ne suis pas encore prêt à changer. » Nous devons venir hardiment chercher le pardon et la miséricorde de tout notre cœur, de tout notre cœur. C'est la clé. Proverbe, chapitre 3. Proverbe, chapitre 3, et je ne lirai qu'un seul verset. Proverbe 3, 3. Que la miséricorde et la vérité ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou et écris-les sur la table de ton cœur. Que la miséricorde. Excusez-moi, nous allons lire un autre verset. C'est ainsi que tu trouveras grâce et bon sens aux yeux de Dieu, voici le point suivant, et des hommes. Attendez une minute. Donc si nous exerçons cette chose appelée reconnaissance de nos fautes ou humilité ou peu importe comment vous voulez l'exprimer, c'est tout le point de cette première section du sermon, s'abaisser, admettre nos fautes, peu importe ce que vous voulez dire, si nous exerçons cela et le faisons de tout notre cœur, non seulement cela nous donnera la faveur de Dieu, clairement parce que Dieu dit « Je vais vous donner ma miséricorde si vous faites cela », si vous venez à moi et reconnaissez vos fautes. Voici ce qui est intéressant. Il est dit que vous obtiendrez aussi la faveur des hommes. Nous pouvons tous apprécier et comprendre cela. Combien d'entre nous sont entrés en conflit avec quelqu'un ou ont fait quelque chose de mal à quelqu'un? Peut-être qu'elle vous a coupé la route en arrivant au travail sans le savoir, ou qu'elle le savait, mais qu'elle vous a coupé la route. Et au moment où vous vous garez tous les deux, cette personne sort de la voiture et vous dit, « Vous savez quoi? Je suis désolé. J'ai vraiment fait une erreur. Je n'aurais pas dû vous couper la route dans les embouteillages. Comment allez-vous réagir? Vous allez dire, « Oh, oui. » Vous allez dire, « Ne vous inquiétez pas. Absolument, ce n'est pas un problème. Imaginez maintenant que cette personne sorte, que la même situation se produise, qu'elle vous coupe la route dans la circulation et que vous soyez garé à côté d'elle au travail ou à l'épicerie, que vous soyez garé à côté de lui et que vous sortiez tous les deux de la voiture, et qu'il vous regarde simplement en secouant la tête sans vraiment montrer de sympathie ou de remords pour ce qu'il a fait, vous pourriez être en colère. Vous pourriez dire, pour qui vous prenez-vous pour me couper la route dans les embouteillages comme cela? Tu savais ce que tu avais fait. Pourquoi ne t'es-tu pas excusé? Il est plus facile pour nous de faire preuve de miséricorde envers les autres, il est plus facile pour nous de faire preuve de miséricorde et de faveur envers les autres lorsqu'ils admettent leur faute. Nous en avons tous fait l'expérience. Nous en avons tous fait l'expérience. Lorsque nous nous abaissons ou que nous nous humilions, il est beaucoup plus facile pour les gens de faire preuve de miséricorde à notre égard, et pas seulement pour Dieu. Dieu nous fera miséricorde si nous nous humilions, mais si nous nous humilions devant quelqu'un d'autre et que nous disons, écoutez, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé de t'avoir coupé la parole. Je n'aurais pas dû faire cela. Je ne sais pas à quoi je pensais. J'étais pressé, et ainsi de suite, vous serez le bénéficiaire de la miséricorde, mes frères. Pas seulement de la part de Dieu, mais aussi de la part des êtres humains. Ils vous diront, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas grave. Merci de vous être excusé. J'apprécie que vous veniez me voir et que vous me disiez cela. Nous recevrons de la miséricorde, non seulement de la part de Dieu, mais aussi de la part des hommes. Les gens sont beaucoup plus disposés à tourner la page de la confrontation et à faire preuve de miséricorde à votre égard si vous vous humiliez et reconnaissez votre faute. Frères et sœurs, c'est simple, ce n'est pas difficile à comprendre, mais vraiment, considérons-le. Si nous voulons être les bénéficiaires de la miséricorde, si nous voulons être les bénéficiaires de la miséricorde infinie de Dieu ou même simplement de la miséricorde de l'homme, nous devons nous humilier. Nous devons nous abaisser et reconnaître nos erreurs. Proverbe, chapitre 28, quelques pages plus haut. Proverbe 28 et verset 13. Celui qui couvre ses péchés ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les abandonne obtient miséricorde. Encore une fois, frère, qu'est-ce qui est le mieux? Si, disons, vous ne payez pas la dîme, c'est un problème. Vous ne payez pas la dîme. Si vous essayez de le cacher et que le ministère découvre que vous n'avez pas payé la dîme, c'est une position bien pire que de ne pas avoir payé la dîme pendant un certain temps, ce qui n'est pas bien. Mais de ne pas avoir payé la dîme et de venir au ministère et d'admettre, écoutez, j'ai fait une erreur. Je sais que je n'aurais pas dû faire ceci, mais par faiblesse, j'ai fait telle ou telle chose, et j'admets que j'ai fait une erreur. Comment pensez-vous que le ministre va recevoir cela? Comment pensez-vous que le gouvernement de Dieu va recevoir cette attitude par rapport à celle qui consistait à essayer de la cacher? Vous saviez que vous faisiez quelque chose de mal, mais vous le cachiez et ne le révéliez pas. Dieu dit, celui qui couvre ses péchés ne prospérera pas. Nous ne pouvons pas couvrir nos péchés et espérer que Dieu ne les voit pas lui-même. Car frère, je vous le dis, tout ce que nous faisons est vu par Dieu. Tout. Nous pouvons nous faire des illusions et espérer que Dieu a été tellement occupé ici à répondre aux prières et à guérir les gens et d'autres choses qu'il a peut-être juste, oh, j'ai raté cela là-bas. J'ai raté celui-là. À quoi ai-je pensé? Eh bien, la prochaine fois, je te surveillerai. Non, ce n'est pas ce qu'il pense. Dieu voit tout. Luc, chapitre 12. Ma fille, elle est assez grande maintenant. Elle sait ce qui est bien et mal. Et elle, je veux dire, je serai là. Elle sait qu'il ne faut pas toucher certaines choses. Elle sait que c'est interdit. C'est interdit. Et elle va même y aller, elle a appris de moi. On dit, pas touche. Et puis elle va, et puis quand je lui fais remarquer que c'est interdit, plus tard, elle va aller voir et elle va dire, loup, loup, loup. Comme, c'est un nom touché. Mais il y a d'autres fois où elle s'approche et où je lui dis, ne touche pas à cela, Elena. Ne touche pas à cela. Et elle se retourne. Si je suis ici et que je suis chez elle, elle se retournera vers moi en faisant comme cela. Elena. C'est un interdit. Et elle a juste, c'est tellement drôle. C'est tellement drôle. Ce que je veux dire, c'est qu'elle n'est pas très douée pour couvrir ses péchés. Elle ne sait pas encore comment faire. Elle est très ouverte. Il est très facile de la repérer, comme Dieu peut repérer nos péchés. D'accord? C'est le lien. C'est le lien. C'est le lien. Dieu peut voir nos péchés aussi facilement que nous pouvons voir que ma fille avance un pas après l'autre vers cette étagère et qu'elle s'empare des livres. Quoi qu'il en soit, celui qui couvre le péché ne prospère pas. Luc, chapitre 12 et verset 2, car il n'y a rien de couvert qui ne doive être révélé. Ce ne sera pas seulement connu, ce sera révélé, mes frères. Dieu va dévoiler ces choses. Ce que vous avez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. C'est pourquoi tout ce que vous avez dit dans les ténèbres sera entendu à la lumière. Ce n'est pas seulement ce que nous faisons, c'est ce que nous disons. C'est ce que nous pensons. Frères et sœurs, nous sommes des livres ouverts pour Dieu. Si nous essayons de nous faire des illusions et de penser que Dieu ne peut pas voir ce que nous faisons, nous nous faisons des illusions. Nous n'avons pas caché ce qui ne doit pas être connu. Mais si nous ne pouvons pas cacher des choses à Dieu, nous pouvons les cacher au gouvernement de Dieu. Nous le pouvons. C'est ce qui est le plus difficile. Il n'est pas toujours facile pour le gouvernement de Dieu de discerner ce qui se passe dans la tête de quelqu'un ou dans sa vie privée, derrière des portes closes. C'est pourquoi, frères, parce que nous, en tant que gouvernement de Dieu, ne pouvons pas discerner ces choses parfaitement tout le temps, si vous voyez que vous arrivez à un problème, si vous avez un problème, c'est pourquoi il est bon de vous humilier d'une certaine manière et d'admettre votre faute. Parlez-en au ministère de Dieu. Cela leur montrera que vous n'essayez pas d'étouffer l'affaire. Vous luttez peut-être contre quelque chose, mais vous n'essayez pas de le cacher. Parce que Dieu dit que même si vous essayez de le cacher, tant que vous essayez de le cacher, cela finira par se savoir. Et si elle est connue d'une manière telle qu'elle est trouvée plutôt que dite au ministère, si elle est trouvée par le ministère plutôt que dite au ministère, c'est une situation très différente. Le jugement sera traité différemment. Nous savons que si vous êtes parents, vous savez que si votre enfant vient vous voir et vous dit « Je suis désolé, papa, pour ce que j'ai fait », vous allez gérer la punition, s'il y en a une, très différemment que si vous le surprenez en train de faire quelque chose, en particulier pour la troisième, quatrième ou cinquième fois, et que vous le prenez en flagrant délit. En tant qu'êtres humains, nous pouvons apprécier cela à sa juste valeur. Passez au chapitre 5 de Jacques. J'ai encore deux versets sur le sujet de la reconnaissance de nos fautes, de l'humilité, de l'admission de nos erreurs avant d'aborder le deuxième grand point. Jacques, chapitre 5, verset 16. Jacques 5, 16. Confessez vos fautes les uns aux autres. Bien sûr, confessez vos fautes à Dieu, mais il ne s'agit pas de dire, comme un bon catholique, d'aller dans une cabine de prière et de dire, écoutez, je suis désolé pour tous ces péchés que j'ai commis, et je vais les partager avec vous maintenant et vous mettre mal à l'aise et me mettre mal à l'aise. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Si vous avez fait quelque chose de mal, avouez-le. Dites, écoute, je suis désolé, j'ai fait quelque chose de mal envers toi et je n'aurais pas dû faire cela. Confessez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Frères et sœurs, la guérison est en fait liée à cela. Si nous voulons être guéris par Dieu, si nous voulons que nos maux soient guéris, il est impératif que nous disions aux autres où nous nous sommes trompés et que nous l'admettions. Admettez nos fautes, et la prière fervente et efficace d'un homme juste sera d'un grand secours. Dieu entendra cette prière, Dieu verra que nous confessons nos fautes, et il nous guérira, et il fera preuve de miséricorde parce que sa miséricorde durera jamais. Peu importe le nombre de fois où nous péchons, tant que nous sommes prêts à chercher profondément, de tout cœur, à nous repentir et à changer, à nous humilier, c'est la condition. Nous devons aller à lui et admettre nos fautes. Le dernier point de cette section du sermon est Ésaïe 55. Ésaïe 55 et le verset 7. Ésaïe 55 et verset 7. Que le méchant abandonne sa voie. Non, nous ne sommes pas méchants, mais nous pouvons parfois avoir des tendances méchantes. Si nous péchons, nous ne sommes pas bons. Que le pécheur abandonne donc sa voie et l'homme injuste ses pensées. Pas seulement les choses que nous faisons, mais les choses que nous pensons dans notre vie. Encore une fois, ils sont exposés à Dieu. Dieu voit tout. Qu'il abandonne sa voix et ses pensées et qu'il revienne au Seigneur et il aura pitié de lui et de notre Dieu, car il pardonnera abondamment. Dieu est prêt à déverser sa miséricorde et son pardon sur vous. C'est une chose étonnante, mais nous ne pouvons jamais tomber dans le même état d'esprit que les gens du monde. Nous transformons la grâce de Dieu en lascivité ou en licence pour aller pécher. Il n'y a pas de mal à continuer de pécher parce que Dieu me pardonnera. Non, non, non. Admettre nos fautes. S'adresser hardiment à Dieu dans la prière. Chercher de tout cœur à obtenir le pardon. Et ne le faites pas seulement à Dieu à l'occasion, cherchez à obtenir le pardon des êtres humains, des autres personnes, parce que vous pouvez être le bénéficiaire de la miséricorde de leur part également, et vous savez quoi? Ils te considéreront comme la personne la plus importante parce que tu as admis que tu avais fait quelque chose de mal. Ils verront cela comme un signe de force. Si quelqu'un vient vous voir et vous dit, je suis désolé pour ce que j'ai fait, vous l'admirerez. Vous ne la mépriserez pas. Reconnaissons donc nos fautes, devant Dieu et devant les hommes, et abandonnons nos voies. Abandonnez les pensées qui sont mauvaises. Abandonnez les choses que vous faites et revenez à Dieu, il aura pitié de vous et vous pardonnera abondamment. C'est le premier point. Le deuxième point est le suivant. Si nous voulons recevoir la miséricorde de Dieu, nous devons faire preuve de miséricorde envers les autres. Vous vous dites peut-être que ce sermon est très simple, Monsieur Holcombe. Plutôt simple. Oui. Eh bien, il y a de la simplicité en Christ, et vraiment, si nous adhérons à ces deux points, si nous nous humilions, si nous admettons nos erreurs et si nous faisons preuve de miséricorde envers les autres, frères, les miséricordes que Dieu déversera sur vous seront stupéfiantes et sans fin, vraiment sans fin. Il suffit de faire ces deux choses. C'est tout. Toutes les autres choses. Si nous faisons ces deux choses, frères, comme je l'ai dit au début du sermon, si vous espérez en la miséricorde de Dieu, bien sûr, vous allez espérer en là. Cela fait partie de tout cela. Si vous avez la crainte de Dieu, Dieu vous fera miséricorde. Voilà ce qu'est la crainte de Dieu. Si vous admettez que vous avez tort et que vous vous examinez, c'est la crainte de Dieu. C'est dire, Père, je sais ce que tu me feras si je ne change pas. C'est cela avoir la crainte de Dieu. C'est pourquoi je dis que ces deux points couvrent la manière de recevoir la miséricorde dans sa quasi-totalité si vous faites simplement ces deux choses. Le deuxième point est que nous devons faire preuve de miséricorde envers les autres. 2 Samuel, chapitre 22 et verset 26. 2 Samuel, chapitre 22 et verset 26. Avec le miséricordieux, tu te montreras miséricordieux. C'est tout. Tu te montreras miséricordieux. Dieu prendra cela comme une promesse. Ne vous contentez pas d'une simple phrase dans la Bible. Si vous êtes miséricordieux, c'est comme une équation en mathématiques. Si vous êtes miséricordieux, Dieu sera miséricordieux envers vous. C'est aussi simple que cela. C'est aussi simple que cela. Nous pourrions nous tourner vers une multitude d'endroits différents qui disent quelque chose comme cela. Le psaume 18 et le verset 25 le disent presque à l'identique, vous n'avez même pas besoin d'y aller. Il dit que vous êtes en train de le lire. Ce qu'il dit, c'est, avec les miséricordieux, tu te montreras miséricordieux. Il le répète. Dieu veut être miséricordieux, mais il veut aussi que nous soyons miséricordieux envers les autres. Le psaume 37, verset 23, psaume 37 et verset 23, psaume 37, verset 23 dit ceci, « Les pas de l'homme de bien sont réglés par l'Éternel. Nous permettons à Dieu de nous aider à diriger nos pas dans la vie. Si nous ne le faisons pas, nous prenons des mesures de notre propre volonté, et ces mesures peuvent s'égarer dans les bois et nous pouvons nous faire manger par un ours ou quelque chose comme cela. Ce n'est pas ce que nous voulons. Dieu ne veut pas cela. Il veut que nous soyons dirigés. Il veut que nos pas soient dirigés par lui. Le psaume 37:23 dit, « Les pas de l'homme de bien sont dirigés par l'Éternel, et il se complaît dans sa voie. » Nous nous réjouissons de la façon dont Dieu nous a conduits dans la vie. Même s'il tombe. Ce qui nous arrive à tous. Il ne sera pas entièrement renversé. Il y a des moments où nous décidons, dans notre propre vie, que mes pas sont peut-être meilleurs que ceux de Dieu. Peut-être que le chemin que je vais prendre est différent de celui que Dieu veut que je prenne. Et Dieu considère cela comme une chute. Nous nous éloignons de la vérité. Nous allons à gauche ou à droite. Nous ne tenons pas bon. Cela nous arrivera à tous. S'il tombe, il ne sera pas complètement renversé, car l'Éternel le soutient de sa main. J'ai été jeune et maintenant je suis vieux. Il s'agit d'un homme qui est, encore une fois, un psaume de David. C'est un homme qui a été jeune et qui est maintenant vieux, et pourtant je n'ai pas vu le juste abandonner ni sa descendance mendier son pain. Il est toujours miséricordieux. Dieu est toujours miséricordieux, et la lentille et sa descendance sont bénies. Éloignez-vous du mal et faites le bien, et demeurez éternellement, car le Seigneur aime le jugement et n'abandonne pas ses saints. Ils sont conservés à jamais. Mais la postérité des méchants sera exterminée. Un homme bon et juste fait preuve de miséricorde envers les autres. Non seulement il fait preuve de miséricorde de temps en temps, mais cela devient une partie de son identité. On ne devient pas connu pour être un menteur à moins d'avoir décidé dans sa vie de mentir beaucoup. Vous avez probablement déjà entendu Monsieur Pack en parler. On ne dirait pas que quelqu'un qui ment une fois dans sa vie est un menteur. On dirait qu'il a menti. Mais quelqu'un qui a l'habitude de mentir encore et encore, c'est un menteur. C'est ce qu'il est. C'est la racine de son identité. Il est devenu une personne connue pour ses mensonges. C'est un menteur. Maintenant, si nous voulons être connus pour notre miséricorde, nous ne devons pas seulement être miséricordieux ici, peut-être là-bas, peut-être une fois la semaine prochaine. Non, 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 nous devons faire preuve de miséricorde de manière systématique. Nous devons établir un modèle de miséricorde de sorte que nous ne soyons pas seulement miséricordieux de temps en temps, mais que nous soyons connus pour être miséricordieux. Je pourrais donc vous poser la question suivante, avez-vous la réputation d'être miséricordieux? Êtes-vous connu pour être miséricordieux? Et si je vous posais cette question, sauriez-vous au moins comment y répondre? Qu'est-ce que la miséricorde au juste? Nous en avons parlé un peu au début de ce message. Mais qu'est-ce que la miséricorde? Comment puis-je être miséricordieux? Et non seulement comment puis-je être miséricordieux, mais comment puis-je devenir une personne miséricordieuse? Comment puis-je être connu pour avoir l'habitude d'être miséricordieux? Rappelez-vous donc ce que nous avons dit au début de ce message. Il est facile de regarder Dieu et de dire que Dieu est miséricordieux. Si nous pouvons comprendre qui est Dieu et que nous essayons de le reproduire, c'est ainsi que nous pouvons devenir miséricordieux. Regardons donc cela. Rappelons-nous qu'au début de ce message, nous avons vu que la miséricorde de Dieu se présente sous différentes formes. Elle prend la forme du pardon. Dieu fait preuve de miséricorde envers nous en nous pardonnant, en pardonnant nos péchés. Nous ne pouvons pas pardonner les péchés des autres, mais nous pouvons certainement leur pardonner. La miséricorde, du point de vue de Dieu, prend la forme de la compassion ou de la pitié. Dieu nous montre de la compassion ou de la pitié. Il nous montre aussi de la gentillesse. C'est une autre façon de montrer sa miséricorde envers nous. Ce que nous n'avions pas envisagé au début du message, c'est que nous devons faire preuve du même genre de miséricorde. Tout comme Dieu pardonne, nous devons être prêts à pardonner. Nous considérons-nous comme ayant ce panier de miséricorde, tout comme Dieu. Dieu se promène avec la miséricorde à la main, prêt à la distribuer. Nous voyons-nous de la même manière? Tout comme Dieu fait preuve de compassion et de pitié, nous devons être compatissants envers les autres, comprendre leur situation, comprendre qu'ils traversent peut-être certaines choses à ce moment-là qui peuvent les amener à ne pas être la meilleure personne envers vous. Mais êtes-vous compatissant? Faites-vous preuve de miséricorde? Tout comme Dieu nous montre de la bonté, nous devons être bons. C'est assez simple, mes frères. Et nous devons aussi nous rappeler, tout comme Dieu le fait, ce qui est fascinant, que certaines personnes font, que ce que certaines personnes font, et les choses qu'elles disent, parfois elles les font et les disent par ignorance. Dieu nous regarde et voit que lorsque nous avons fait quelque chose par ignorance, il passe outre. Ainsi, si quelqu'un ne savait pas qu'il devait faire X, Y ou Z, mais qu'il l'a quand même fait, s'il l'a fait par ignorance, devons-nous le blâmer pour cela? Devrions-nous les juger pour cela? Non, 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 nous sommes censés faire preuve de miséricorde. Le même genre de miséricorde que Dieu montre à ceux qui ont fait quelque chose par ignorance. Frères et sœurs, la façon la plus simple de faire preuve de miséricorde envers quelqu'un, si vous voulez vraiment résumer la situation, est de vous mettre à sa place pendant une minute. Peut-être que quelqu'un vous a contrarié ou vous a fait quelque chose, et c'est maintenant à vous de décider si vous allez le juger, si vous allez lui couper la tête, proverbialement, ou si vous allez faire preuve de miséricorde, c'est à vous de prendre cette décision. L'une des façons les plus simples de faire preuve de pitié est de se mettre rapidement à leur place et de leur dire, un membre de leur famille est-il décédé récemment? Passent-ils une mauvaise journée? Ont-ils des problèmes de santé? Que se passe-t-il dans leur vie? Parce que peut-être qu'ils agissent comme ils le font parce que quelque chose de très difficile est en train de leur arriver à ce moment-là. Vous pouvez alors commencer à comprendre, d'accord, Je peux comprendre pourquoi tu es contrarié. C'est parce que tu as traversé cette grande, tu as été licencié hier, et maintenant tu es au chômage, c'est une mauvaise économie et nous essayons de payer pour. C'est ainsi que l'on commence à faire preuve de miséricorde. Vous vous mettez à leur place et vous réalisez, attendez une minute, je ne veux pas les juger automatiquement juste parce qu'ils m'ont coupé la parole. Peut-être qu'ils m'ont coupé la route sans s'en rendre compte parce que leur grand-mère vient de mourir. Ils ne pensaient même pas à ce qu'ils conduisaient parce qu'ils pleuraient parce que leur grand-mère venait de mourir, dans la voiture. Vous ne savez pas. Nous ne savons pas. Il peut être très facile de porter rapidement un jugement alors que Dieu veut que nous fassions preuve d'une certaine miséricorde. Jacques, chapitre 2. Jacques, chapitre 2. Verset 13. Jacques 2, 13 dit ceci, car celui qui n'a pas fait miséricorde sera jugé sans miséricorde. Voulons-nous nous présenter devant Dieu et être jugés sans miséricorde si nous ne créons pas ce modèle de miséricorde envers les autres? Parce que Dieu ne ment pas. Il ne dit pas des choses qu'il n'appliquera pas. La miséricorde se réjouit du jugement. Dieu veut faire preuve de miséricorde. Il se réjouit du jugement. Il ne veut pas avoir à nous punir. Tout comme, je l'espère, dans notre vie, nous ne voulons pas avoir à juger les gens. Nous voulons avant tout faire preuve de miséricorde. Nous voulons être connus pour être des personnes de miséricorde, pour être des personnes de miséricorde. La nouvelle version de la King James rend cela un peu différemment, tout en restant fidèle à l'hébreu, mais elle dit, car le jugement est sans pitié pour celui qui n'a pas fait preuve de miséricorde. Et la miséricorde triomphe du jugement. Est-ce que cela définit votre état d'esprit par rapport à la miséricorde et au jugement? Dans votre esprit, la miséricorde triomphe-t-elle sur le jugement, ou bien vous arrive-t-il souvent, plus souvent qu'à votre tour, de rendre un jugement au lieu d'essayer de voir les choses de leur point de vue, d'essayer de comprendre d'où elles viennent, de faire preuve de compassion, de pardon, de gentillesse, ou bien nous contentons-nous de juger sur le champ? La miséricorde triomphe du jugement. Est-ce que cela définit qui nous sommes, ou est-ce que nous avons inversé les choses? Est-ce que, dans notre vie personnelle, nous pensons et agissons comme si le jugement triomphait sur la miséricorde, ce qui est. Maintenant, permettez-moi de clarifier quelque chose. Considérons. Vous n'avez pas vraiment besoin d'écrire cela. Je veux dire, vous pourriez. D'accord, notez ces trois choses. Considérons qu'il y a la miséricorde, la tolérance et le jugement. Ce sont trois choses que nous devons en quelque sorte faire jouer l'une contre l'autre lorsque nous vivons notre vie. Imaginez que vous êtes au travail, d'accord? Vous n'avez pas besoin d'écrire tout cela. Il s'agit simplement d'un exemple qui illustre l'interaction entre la miséricorde, la tolérance et le jugement. Imaginez maintenant que vous travaillez sur un projet de groupe. Vous et deux ou trois autres personnes êtes chargés d'un projet par votre responsable, et vous avez chacun votre rôle à jouer dans ce projet. L'un des membres du groupe, on pourrait parler de camarade de classe, ou de n'importe quoi d'autre. L'un des membres du groupe procrastine et finit par ne pas faire sa part du travail correctement. Vous avez donc dû prendre le relais. Cela ne doit pas vous plaire. C'est peut-être un peu offensant pour vous. Peut-être qu'il est mieux payé que vous, ou qu'elle est mieux payée que vous, et que vous continuez à prendre leur place et que vous vous dites, oh là là, je suis lésé ici. Imaginons que la semaine prochaine, vous ayez un autre projet, que vous trouviez, que vous commenciez tous le projet, que l'on vous attribue chacun votre part du projet, que vous commenciez tous le projet, et que vous commenciez à voir que le même gars, Ne procrastine-t-il pas encore une fois? Vous regardez devant vous et vous vous dites, oh, non, pas encore. Je ne vais pas encore devoir le prendre en charge, n'est-ce pas? Eh bien, vous vous apercevez que c'est le cas. Imaginons que cela se produise la semaine suivante. Vous commencez à vous énerver. Vous vous dites, qu'est-ce que je fais? Que dois-je faire? Il y a trois façons différentes de gérer cette situation. Vous pouvez faire preuve de miséricorde, de tolérance ou de jugement. Jusqu'à présent, vous pensiez peut-être que la miséricorde consistait simplement à laisser passer les choses. Oh, c'est bon. Je comprends que tu as probablement des problèmes dans ta vie, et je comprends que tu as probablement eu des problèmes dans ta vie, et c'est pourquoi maintenant, pour le 17e projet défilé, je dois te donner un coup de main. Non, non, non. Comprenons bien. La miséricorde n'est pas la tolérance. La tolérance, c'est ce que fait le monde. La tolérance, c'est bon. Faites ce que vous voulez. Nous allons le tolérer. Ce n'est pas grave. Vous pouvez être pédophile ou homosexuel. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Tout va bien. Nous tolérons, nous acceptons. Nous sommes tolérants. Ce n'est pas ce qu'est la miséricorde, mes frères. La miséricorde, c'est l'autre côté de la médaille. Passons au jugement. Disons que vous vous rendez au travail en voiture et que vous rencontrez la même personne. Vous savez qu'elle est en train de remettre son travail à plus tard. Vous décidez donc de lui crever les pneus ce jour-là. C'est un jugement. Je vais te montrer. Peut-être que vous mangez son déjeuner. Peut-être que vous lui dites, « Ah, regarde, maintenant tu vas avoir faim le reste de la journée. » C'est un jugement. Est-ce que c'est bien? Non. Il y a donc différentes facettes de la médaille dont nous parlons ici. La miséricorde n'est pas la tolérance et ce n'est certainement pas le jugement. D'accord, ce n'est certainement pas la tolérance et ce n'est certainement pas le jugement. Vous savez, si vous rendez un jugement, vous pourriez aussi, ou vous pourriez devenir amer, vous pourriez vous mettre en colère contre eux, vous pourriez vous emporter, vous pourriez dire des choses que vous regretteriez plus tard. C'est cela le jugement. De l'autre côté de la médaille, il y a la tolérance. Vous laissez passer les choses. Et maintenant, vous devez constamment prendre le relais de cette autre personne et elle n'en tire aucune leçon non plus. Ils continuent à faire la même chose et à se dire, oh, hey, cette personne là-bas va faire mon travail à ma place et je serai mieux payé, peu importe. Voilà ce qu'il faut retenir. La miséricorde ne consiste pas à rester les bras croisés et à laisser les choses aller. C'est intéressant. La miséricorde consiste à aborder avec tact et gentillesse, avec compassion, les choses qui doivent être changées. Ce n'est pas faire preuve de miséricorde envers vous ou la personne avec laquelle vous travaillez, ce n'est pas faire preuve de miséricorde que de laisser les choses aller. Mais il n'est pas non plus clément de crever les pneus, proverbialement parlant. Dans les deux cas, ce n'est pas clément. Merci dans cette situation, et vous pouvez appliquer cet exemple à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses différentes. Il ne s'agit pas nécessairement de quelqu'un avec qui vous travaillez et qui ne remplit pas une. Il peut s'agir d'une personne qui vous parle, qui vous dit quelque chose d'offensant et qui a peut-être pris l'habitude de le faire, ou d'une personne qui a tort et dont vous savez qu'elle fait quelque chose d'offensant. Et s'ils le font avec vous, d'ailleurs, frère, ils le font probablement aussi avec d'autres personnes. La miséricorde ne consiste donc pas à tolérer les choses, ni à les jeter par terre, ni à se mettre en colère contre elles. La miséricorde consiste à aborder quelque chose avec tact et à dire, écoute, je sais que tu as peut-être des problèmes dans ta vie, quels qu'ils soient, je n'en suis pas sûr. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie personnelle et je ne suis pas là pour vous poser des questions à ce sujet, mais j'ai remarqué que vous remettiez votre travail à plus tard et que cela me pesait énormément. Vous ne lui tranchez pas la gorge en lui disant, qui es-tu pour faire cela? Il faut que tu te ressaisisses. Vous abordez la question avec tact. Et frère, lorsque vous abordez la question avec tact, en faisant preuve de miséricorde, même s'ils ne veulent pas changer ou ne montrent aucun signe qu'ils vont changer, si vous faites preuve d'un certain niveau de miséricorde à leur égard, ils peuvent dire, oh, vous savez quoi? Si vous leur expliquez le fardeau que cela représente pour vous, ils commenceront peut-être à dire, vous savez quoi? Je suis désolé. Je m'excuse. Je n'aurais pas dû faire cela. C'est égoïste de ma part, je vais commencer à prendre mes responsabilités à partir de maintenant. Non seulement vous vous êtes aidé vous-même, mais vous les avez aussi aidés parce que maintenant ils effectuent leur travail correctement et c'est. Je veux dire, évidemment pour vous, regardez le bénéfice que vous venez d'obtenir, mais il n'a pas fallu laisser passer, tolérer, ni juger. C'était la voie du milieu, la miséricorde. Faire preuve de compassion, tout en abordant le problème. Encore une fois, ce principe s'applique à toutes sortes d'offenses, toutes sortes d'offenses. La question est de savoir comment nous nous y prenons. Vous pouvez penser à des situations où vous avez été offensé par d'autres personnes. La question est de savoir si vous la tolérez ou si vous faites preuve de discernement. Si nous faisons l'un ou l'autre, ce n'est peut-être pas le bon choix. Le bon choix, c'est toujours la miséricorde. Mais la miséricorde peut signifier qu'il faut parfois dire quelque chose. Matthieu, chapitre 5. Chapitre 5 de Matthieu, le début de l'attitude à adopter. Matthieu 5, le verset 7, il est dit, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » C'est exactement ce que nous avons commencé à lire dans le 2e Samuel. Si vous faites preuve de miséricorde, Dieu fera preuve de miséricorde. C'est aussi simple que cela, car Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Il ne veut pas que nous voulions de la miséricorde, mais que nous ne soyons pas prêts à en faire preuve nous-mêmes. Reportez-vous au chapitre 18 de Matthieu. Il veut que nous fassions preuve de miséricorde et, en fait, il a besoin que nous fassions preuve de miséricorde pour que nous soyons les bénéficiaires de sa miséricorde. Si nous attendons la miséricorde de Dieu, il veut que nous fassions de même envers les autres. Matthieu, chapitre 18, verset 22. C'est fascinant. Matthieu, chapitre 18, verset 22. Verset 21. Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois mon frère péchera-t-il contre moi, alors que je lui ai pardonné ? Et je lui ai pardonné ? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit, « Je te le dis, jusqu'à 7 fois, et non pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » C'est pourquoi, à partir de cette phrase, cette expression couramment entendue dans la Bible, nous ne pardonnons pas à quelqu'un 1 fois ou 7 fois, nous lui pardonnons 70 fois 7 fois. Mais voici ce qu'il en est. C'est pourquoi le royaume des cieux est comparable à un roi qui faisait le compte de ses serviteurs. Lorsqu'il eut commencé à faire le compte, on lui amena un serviteur qui lui devait 10 000 talents. Et j'ai dans ma marge soit 40 millions, soit 225 millions, c'est beaucoup. D'accord? C'est juste beaucoup d'argent. C'est 1 tonne d'argent. 10 000 talents, mais pour tout ce qu'il n'avait pas à payer, Son seigneur a ordonné qu'il soit vendu avec sa femme et ses enfants et tout ce qu'il possédait, et que le paiement soit fait. Dieu voulait qu'il paye ce qui était dû, mais le serviteur est tombé. Examinons maintenant le premier des deux points dont nous venons de parler aujourd'hui. Voyons s'il fait ce que dit le premier des deux points. Il se présente devant Dieu dans la prière, l'implorant de lui pardonner. Le serviteur se prosterna et l'adora en disant, « Seigneur, prends patience. Prends patience envers moi et je te paierai tout. » Et le Seigneur de ce serviteur fut ému de compassion. Dieu a entendu cette prière et a été compatissant à l'égard de la personne qui avait cette dette énorme, énorme. Il l'a donc libéré et lui a pardonné parce qu'il a appliqué le premier des deux grands points dont nous parlons aujourd'hui. Mais voici ce qui se passe, le même serviteur est sorti et a trouvé un de ses compagnons de service qui lui devait 100 pence, ce qui équivaut à 58 ou 44 dollars, une somme d'argent minuscule en comparaison. Il mit la main sur lui, le prit à la gorge et lui dit, « Paye-moi ce que tu me dois. » Ses compagnons de service se jetèrent à ses pieds et firent la même chose que cet homme venait de faire à son maître. Il se jeta à ses pieds et l'implora, le supplia, en disant, « Prends patience envers moi et je te paierai tout, exactement comme il l'avait fait envers son maître. » Celui-ci ne voulut pas, et alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé sa dette. Lorsque ses compagnons de service virent ce qui s'était passé, ils furent très attristés et vinrent raconter à leur seigneur tout ce qui s'était passé. Alors son seigneur, après l'avoir appelé, lui dit, « Mauvais serviteur. Notez ceci, mes frères. Je t'ai remis toute ta dette parce que tu l'as voulu. » Ce mot « désirer » signifie « implorer »,« supplier ». Tu es venu à moi, contrit, attristé par ce que tu as fait, et je t'ai pardonné. N'aurais-tu pas dû, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon de service, lui témoigner la même miséricorde que je t'ai témoignée ? Et son seigneur fut hot et le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qui lui était dû. Il a retiré sa miséricorde. Non seulement Dieu veut que nous l'implorions dans l'humilité, en reconnaissant nos fautes, mais il nous le demande, frères, par cette parabole. Il exige que nous fassions preuve de miséricorde envers les autres, sinon nous sommes des hypocrites. Nous sommes comme cet homme qui devait tant d'argent, mais qui n'était pas disposé à remettre la dette d'autrui, une dette bien moindre. Mon Père céleste fera de même à votre égard. Si vous pardonnez de tout votre cœur, non pas à chacun ses offenses. Et je pourrais ajouter au début, au verset 22, 70 fois 7 fois si nécessaire. Je vais juste tourner, vous n'avez pas besoin de tourner pour un verset de conclusion, Michée 6 et verset 8. Notez-le dans vos Bibles et écoutez la lecture du verset. Le verset 6 et le verset 8 de Michée disent ceci, « Il t'a montré, ô homme, ce qui est bon, et qu'est-ce que l'Éternel attend de toi ?» Il y a trois choses que Dieu exige de nous, d'accord ? Mais deux d'entre elles, résumons ce sermon. Agir avec justice, aimer, faire preuve de miséricorde, être connu pour sa miséricorde, et marcher humblement avec Dieu. S'abaisser. Admettre ses fautes. Admettre nos erreurs et marcher avec Dieu. Frères et sœurs, si nous nous souvenons de Michée 6 et 8, nous pourrons nous rappeler les deux grands points de ce sermon, et la miséricorde de Dieu sera vraiment avec nous pour toujours.